du coq à l'âne.
Okay, 3, 2, 1, let's go.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du coq à l'âne, nouvelle saison qui démarre aujourd'hui, numéro 593. Alors, avec aujourd'hui autour de la table, celle qui aurait pu être un cépage à elle toute seule et qui vous enivre dès qu'elle parle de sa passion vinicole. Je veux bien sûr parler de Laetitia Allemand.
C'est gentil, bonjour.
Bravo, bravo.
De faire mon retour.
C'est vinicole ou viticole?
C'est les deux.
Enfin, une
voix féminine. Vinicole, c'est le vin, viticole, c'est la vigne. Donc là, ça serait plutôt viticole, mais tout va bien.
Celui qui, lui, n'est pas un cépage, loin s'en faut, mais qui vous saoule quand même, c'est Christian Bouteillon.
Ah, bonjour.
Bonjour, Christian.
Et si tu pouvais me lâcher la grappe un peu?
Ça tombe bien.
C'est le cas de dire.
On connaissait Jason et la Toison d'Or, on connaît maintenant Jean-Claude et la Toison d'Argent. C'est Jean-Claude Hérault qui est avec nous. Alors vous savez qu'on a perdu un ministre de l'écologie, un ministre des sports. Si on perd celui de l'agriculture, on a un prétendant, c'est Bruno André.
Bonjour.
Bonjour.
Merci.
Bravo.
Et puis enfin, notre invité, maître des clés du château de Tallard et Cerbère de la Porte de l'AMF des Hautes-Alpes, c'est l'inamovible Jean-Michel Arnaud.
Bravo, bonsoir.
Alors, je suis content de vous retrouver tous autour de cette table. Alors évidemment, ils ne sont pas tous là parce que la table n'est pas assez grande, bien sûr. En attendant, merci à vous d'être là pour ce numéro 593. Merci à notre parrain, Jean-Michel Arnaud.
Avec plaisir, et j'ai tous mes associés qui sont là, puisque c'est un grand plaisir d'être le parrain de cette émission. C'est mon côté italien, sicilien.
On a Jean-Michel deux fois par an, vous le savez. On l'a au début de la saison et à la fin de la saison. Alors, bon, avant de pouvoir parler de sujets beaucoup plus pointus, je voulais qu'on jette un petit coup d'œil en arrière et notamment sur ce qui s'est passé cet été. Et la deuxième étoile qu'on a posée sur le maillot de l'équipe de France, je suppose que même si autour de la table, il y a des gens qui n'aiment pas forcément le football, ça a dû vous toucher quand même quelque part. On va commencer par toi, Jean-Michel. Bon, je t'ai suivi, évidemment, comme je te suis tout le temps sur Facebook et Twitter. Et j'ai vu que tu avais relayé quand même pas mal de fois le fait qu'on était champion du monde.
C'était vraiment un grand moment que de voir le coq français picorer deux étoiles.
Ouais.
Et j'étais à Briançon pour la finale, parce que j'aime monter en altitude l'été. Et c'est vrai que c'était une grande fraternité. Une fraternité qui est une fraternité européenne, parce qu'il y avait des Allemands, il y avait des Belges. Et tout le monde a fait la fête ce soir-là, et c'était vraiment super sympathique. À Gap, c'était un peu plus tendu parce que sur le cœur de ville, un certain nombre de personnes ont profité aussi des événements pour avoir des comportements qui étaient un peu limites, mais je retiens la bonne ambiance générale.
Ouais. Comment vous avez jugé le parcours de notre équipe de France? Est-ce que franchement vous étiez optimiste avant que ça démarre?
Moi j'étais à fond. Hein.
Ah oui?
J'étais convaincu qu'on allait gagner.
C'est vrai?
Ouais, on avait un pot terrible, quoi. Et encore hier soir, on n'était pas terrible hier.
Avant-hier soir.
Par rapport aux Allemands.
Mais là, c'est un match de retour.
On avait l'impression qu'on ne pouvait pas le perdre non plus. Quoi.
Ouais.
J'ai l'impression qu'on a une bonne étoile. C'est le cas de le dire.
On a peut-être une bonne étoile, mais on a aussi quand même
des joueurs
de valeur. Ouais. Non, mais Laetitia, tu as raison.
Oui.
Tu as suivi, évidemment.
Alors, je ne suis pas très foot, mais pourtant, je me suis piqué au jeu, j'avoue. Et j'ai regardé jusqu'à la finale en mettant le t-shirt Cocorico, en mettant au frais, bien sûr, les bouteilles après chaque match. Et non, je me suis vraiment piqué au jeu. C'est vrai que c'est une belle victoire. Et je pense que personne ne nous dira le contraire.
Bruno André.
Mais, pardon. Moi, le chat n'est pas passé. J'étais pas du tout optimiste au départ. Et puis finalement, je pense qu'on a eu un petit peu la baraka. Mais on a rien volé non plus.
Parce qu'on a
eu la baraka, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de grandes équipes qui ont été éliminées. Mais ils ont été éliminés.
Oui,
et par contre, nous, on ne doit rien à personne. On gagne en demi-finale contre les Belges. Les Belges, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils avaient qu'à être meilleurs que nous. Ils n'ont pas été réalistes. Et pour une fois, moi, quand j'étais gamin, je me rappelle de 82, de 86.
Les boules.
On perd parce qu'on n'a pas une équipe qui a beaucoup de réalisme. Et là, l'équipe de France a été réaliste.
Hyper réaliste.
Et on fait une belle finale. Ouais, moi, je trouve que
tout à fait.
Eh ben, on n'a pas volé notre deuxième étoile.
Et, alors,
et c'est tant mieux.
Bon, Christian, je te pose pas la question parce que toi.
Si, moi, je me suis régalé. Non, ça va. C'est bien. Et puis, j'ai bien aimé le goal. Quoi. Il était extraordinaire, ce goal.
Ah ben,
Hugo Lloris. Ouais, même quand il joue avec ses pieds, il est bon.
Eh ben, il était très bien. Non, il a été très bon. Bon, il a fait une petite boulette, mais c'était pas bien grave.
C'est excusable. Non, mais il a été très bon. Je pense qu'il est vraiment essentiel dans cette victoire.
Puis, il a énormément fêté la victoire. Oui, très tardivement.
Oui, alors ça, c'est dégueulasse aussi. Mais c'est dégueulasse d'embêter les gens comme ça dans leur vie privée, sous prétexte qu'ils sont célèbres.
Ouais.
Non, mais tu parles de sa conduite à Londres.
Oui.
Et moi, j'ai remarqué qu'Adil Rami n'avait pas fait d'erreur.
Oui, il a été nickel. Savez que, mine de rien, moi, j'étais persuadé que la France allait gagner. J'étais persuadé qu'on irait en finale. Mais non seulement ça, mais avant la finale, j'avais parié que la France gagnerait 5-2. Ouais. Tout le monde s'était foutu de moi.
Moi compris.
On n'était pas loin.
Ouais.
Parce qu'on a gagné 4-2 et il y a eu le cinquième but. Ouais. J'en ai voulu un petit peu. Hein, je ne sais plus qui a raté l'occasion. Je ne sais plus. En tout cas, il y a eu une occasion à la 92e ou 93e minute. Et le 5-2, ça aurait été pour moi. Bon, très bien. Alors,
jamais content, ces Français.
Il y a une petite polémique qui a éclaté au sujet du maillot de l'équipe de France. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ça. Maillot trop cher, 140, 180 euros hein, en fonction, hein, entre 140 et 180 euros.
Trop cher à la revente.
Bah oui, parce que ça sort d'usine à 3 euros. Voilà.
Mais comment ça vaut le même maillot lambda là, que t'achètes, les t-shirts quoi,
80 euros aujourd'hui.
85 euros.
80.
Le truc de base.
80.
Et donc, celui de l'équipe de France
quoi. 140, 180 en fonction.
Non, bon,
voilà. En fonction. Moi j'ai été voir.
Bah écoute, ça
dépend des.
C'est le business, hein.
Mais voilà, alors des maillots qui sont fabriqués en Thaïlande pour 3 euros.
C'est là où est le scandale. Quoi.
Non, mais quand tu l'achètes à 80, il est toujours fabriqué en Thaïlande à 3 euros aussi.
Bien
sûr. Et tu ne te balades pas à poil.
Oui. Hein, non, mais...
cela dit, il devrait reverser de l'argent au centre de formation du foot. Sur
ils en
reversent
pas mal à la Fédé. Quand même.
La Fédé.
Ah, oui, à la Fédé. Faut le dire, alors, moi, je connais rien.
Non, mais parce que t'inquiète pas que le contrat de sponsoring signé par la marque à la virgule, je te garantis qu'il.
Non seulement.
Mais c'est bien, donc c'est bien.
Non seulement, on peut discuter longtemps sur la marge et puis les conditions dans lesquelles les maillots sont fabriqués. Moi, je retiens quand même, puisque j'ai rencontré les dirigeants de mon club de foot de Tallard, qui m'ont affirmé qu'à l'issue de la Coupe du Monde, il y aurait une dotation exceptionnelle pour les tout petits clubs.
Oui, absolument.
Alors, on a une vision quand même du foot qui est du foot business. Et là, je crois que la fédération, la FIFA et la Fédération Française de Football ont adopté cette année une position qui est beaucoup plus avantageuse pour les petits clubs.
Il y a 20 millions qui vont être redistribués.
Et nous aurons donc sur un petit club, un petit stade comme Tallard, des financements venant de la Coupe du Monde indirectement et du produit marketing. Donc, c'est plutôt positif.
Et j'ai bien aimé le cas Mbappé, parce que c'est un jeune gamin de 19 ans et qui a décidé de reverser aussi toutes ses primes à des associations dont il est le parrain et tout. D'ailleurs, si tu veux faire un don...
c'est vrai qu'il est super. C'est la personnalité qu'on retient de la Coupe du Monde quand on est... Si on connaît même pas très bien le foot, il est génial.
Tu as raison. Et je ne sais pas si vous avez vu le reportage sur... on avait eu les yeux dans les bleus en 98. Là, ils avaient fait la même chose à peu près. Et on a vu l'importance de certains joueurs qu'on n'imaginait pas, et notamment Pogba. Ouais. Pogba qui est un vrai meneur d'hommes au sein de l'équipe. Et j'ai trouvé ça très intéressant.
Vous savez, moi, ce qui m'a marqué dans cette Coupe du Monde, et je reprends une actualité tallardienne, puisque demain nous allons dénommer la médiathèque Michel Serres. Et lorsque nous avons interrogé Michel Serres il y a quelques mois, avant la Coupe du Monde, il a dit l'élément le plus important que je note dans les aspects sportifs, et pour moi c'est un élément majeur, c'était la catastrophe de la France et l'équipe de France en Afrique du Sud, parce qu'ils ne savaient pas faire équipe.
Mais bien sûr.
Ne plus savoir faire équipe, c'est le syndrome et c'est le malheur de la petite poussette, vous savez, l'enfant imaginé par Michel Serres dans ses textes, que ne plus savoir faire équipe. Et cette équipe de France a su faire équipe, parce que vous voyez, on parle d'Mbappé, mais globalement, on n'a pas, à son exception, Griezmann, qui était bien marqué avant la Coupe du Monde, mais globalement, ce qu'on retient, c'est d'abord le coach.
Bien sûr.
Et c'est l'esprit d'équipe.
Et c'est être, un jouet collectif, on peut le dire.
Et être en capacité de faire du collectif aujourd'hui, dans une société individualiste, je crois que c'est la principale... le principal enseignement que l'on doit retenir de cette Coupe du Monde.
Mais c'est la grande réussite de Didier Deschamps, parce qu'il n'a pas fait une équipe qui, techniquement, est extraordinaire, et puis il n'a pas choisi des joueurs, il n'avait des meilleurs, certainement, mais il a choisi la meilleure
combinaison possible.
Comme un vigneron choisit les meilleurs cépages pour faire un bon vin, et ça fait quelque chose d'excellent.
Bravo. Alors, Avoir l'esprit agréable.
Alors, attendez, alors, rien que, alors attends, attends, je vais te laisser la parole, mais rien que pour ça, ça mérite quand même quelque chose.
Tiens, tu as un buzz?
Ah ouais, ça mérite ça, ça mérite ça.
Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble, demain les vendanges de l'amour.
C'est joli, c'est joli. Non, c'était très beau.
C'est une spéciale dédicace que j'apprécie, Thierry, je reviendrai.
Moi, ce que je souhaiterais maintenant, c'est qu'on développe le football féminin comme on a développé.
On a la Coupe du Monde l'année prochaine.
Ça, surtout voilà. Qu'il a, en France, il a gagné. En qualité.
Et oui. Ça, je
elles sont moins médiatisées,
fait.
Les filles. Hein, oui, mais moi, je le regrette.
C'est normal, c'est nouveau.
Ça commence
parce
à monter.
Franchement, c'est très niveau. Agréable de voir le football féminin.
Le niveau est énormément.
Très dynamique, très, très chouette.
Bon. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Michel là, par rapport à. Bon, mais c'est n'importe quoi, là.
Mais non, bah quoi, il a eu. Vas-y, je t'écoute.
Je voulais mais je sais plus ce que je voulais dire.
Ouais, bah, alors,
voilà, par rapport à Michel Serres.
On coupera au montage. Hein.
Quand est-ce que tu le reçois, Michel Serres, là,
pour je ne le reçois pas, mais j'ai été reçu chez lui.
D'accord. Et donc, par rapport à ce livre, je sais pas si c'est la petite poussette. Voilà. Par rapport à l'esprit d'équipe, la petite poussette, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'il a défini comme étant les ados qui travaillaient qu'avec leurs pouces sur les tablettes.
Ouais.
Voilà, c'est pas une poussette ou c'est pas un landau.
Non, non.
Et donc là, on est dans l'individualisme le plus total, en opposition à la collectivité du sport.
Bon, cela dit, pour revenir sur l'histoire du maillot, si on va par là, il faut tous qu'on rende nos téléphones. Hein. Vous le savez.
Ben oui.
Bon, non, non, mais. Et nos fringues aussi, par la même occasion.
Mais on rend tout.
Et peut-être notre PC, et peut-être notre voiture. Enfin bref, voilà. Donc ça fait partie, c'est ce qu'on appelle la mondialisation. C'est un constat.
Oui, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut accepter la situation.
Bien sûr, bien sûr. Allez, un mot de politique. Un mot de politique. Oh my God, quel été. Tout a commencé avec le scandale du siècle. L'affaire Benalla. Une affaire qui aura surtout donné du grain à moudre à certains médias visiblement ravis de pouvoir se coltiner le président Macron après seulement un an de règne. En tête évidemment mon ami Edoui Plenel et Mediapart, suivi de très près par Marianne. Je crois qu'à partir du 18 juillet, il n'y a pas eu un jour où ces deux médias n'ont pas fait un papier sur ce scandale planétaire. Alors bien sûr, vous avez compris que j'ironise un petit peu, et même beaucoup sur ce sujet, étant d'un... certain âge et d'un âge certain, ayant connu la politique dans le milieu des années 70, j'ai donc eu un certain recul, sur ce scandale interplanétaire du siècle et mis en perspective avec d'autres affaires. Par exemple, l'affaire de Breuil, l'affaire Boulin, de Grossouve, les écoutes de Mitterrand, voilà, le Rainbow Warriors, l'affaire de l'AMNEF, le Carrefour du Développement, ELF, le Crédit Lyonnais, le financement du RPR, Yann Pia, les frégates, les HLM de Paris, Sarkozy, Kadhafi. J'arrête parce qu'on peut passer la soirée à citer toutes les affaires.
Markovitch, Mercantoni, sous Pompidou.
Exactement. Mais quand on
met. Heureusement qu'il n'y a pas Jean Quint.
Quand on met en perspective.
Ah, mais l'affaire du petit Clamart. Le petit Clamart qu'on a voulu assassiner.
Oui, non, mais ça, c'était. Mais Jeannot n'est pas là. Donc, si on met tout ça en perspective avec donc, cette affaire, on a le sentiment quand même que le scandale d'État Benalla n'est autre qu'un fantasme de journaliste et bien sûr de l'opposition, ce qui est normal. Une chose est sûre, rien ne sera passé à Emmanuel Macron, qui aura beaucoup de chance, je pense, s'il va au bout de son mandat, vu que ça fait un an qu'il est là et qu'il commence à creuser. Il arrive presque à être en dessous de François Hollande à la même époque. Alors, je voudrais que vous réagissiez chacun là-dessus. A reçu le baudet, effectivement, donc, pour Macron.
Enfin, moi, l'histoire de Benalla à l'escalier, bon, c'est probablement l'écume de la mer. Hein. Mais elle est révélatrice, quand même. Elle est révélatrice de la déception au bout de quelques mois que peuvent avoir les Français, même ceux qui n'ont pas voté pour Macron au premier tour,
bah, surtout,
et qui ont voté au second tour.
Surtout ceux qui ont voté pour Macron.
Qui était d'imaginer que l'ancien monde était derrière nous, l'ancien monde des affaires, l'ancien monde des petits arrangements, etc. Et on s'aperçoit qu'hélas, ça revient. Parce que ce n'est pas tellement la baston dans le quartier, c'est la manière dont cet homme-là a pu, dans l'appareil d'État, prendre une place qui n'est pas la sienne.
Absolument.
C'est ça la vraie difficulté. Et c'est révélateur d'une gouvernance qui manque d'équilibre, puisque Arros sur les corps intermédiaires, dans les territoires, les communes, les intercommunalités, les régions, les départements, on est l'ancien monde, et puis les syndicats au niveau national, les associations qui sont l'ancien monde, eh bien, l'ancien monde, il est là, et quand je vois la manière dont il y a quelques anecdotes, c'est simplement des éléments de révélation, des éléments, vous savez, qui permettent de mettre en perspective les choses. On a eu ça, on a eu la nomination d'un des amis proches comme consul à Los Angeles. On a Hulot qui claque la porte. On a Monsieur Stéphane Bern, je donne des gens qui sont plutôt du show business pour maintenant, qui claquent aussi presque la porte. Donc ça montre bien que Ariel Dombard, il y a des fondamentaux.
Non mais Laura Fessel, ça n'a rien à voir. Non mais Bern, là tu extrapoles quand même.
Ah, hein. C'est mon point de vue.
Je pense que tu extrapoles un petit peu, mais non, mais tu as raison.
Moi je vais être un peu méchant avec Jean-Michel parce que c'est le gros défaut des politiques, c'est-à-dire que dès qu'ils peuvent critiquer et enterrer une situation, ils y vont à fond. Tu as beau dire non, c'est ce que tu viens de faire.
Non, c'est pas ce que je viens
de
faire.
Cela dit, rappelle-toi, toi en t'entendant, tu as été aussi vraiment malmené. Au travers de quelque chose au conseil, ce qu'on appelait général à l'époque, où je pense que tu étais dans ton droit et où ton opposition en a bien profité pour essayer de te mettre les deux pieds dans la boue.
J'essaie d'être un peu plus en profondeur
Parce que l'ancien monde, ça n'existe pas. On est dans un monde qui est toujours en évolution. Il n'y a pas d'ancien monde et l'homme n'est pas parfait.
Mais pardonne-moi.
Je veux finir. Parce que ce gars-là, ce garde du corps, c'est quelqu'un qui est sorti du bas de l'échelle, qui a évolué extrêmement vite, qui a certainement pété les plombs et qui a... Et puis, je veux dire, un président de la République, il ne va pas gérer le quotidien et tous les actes de tout son entourage non plus.
Je
parle de déviance.
Je dis simplement que quand on a un appareil d'État... il y a comme directeur de cabinet du président Macron quelqu'un pour lequel j'ai une profonde estime parce que je l'ai connu dans ses fonctions
préfectorales
dans les Hautes-Alpes. Ouais. Ce que je dis simplement, c'est qu'un garçon comme celui-ci, et il y en a dans tous les systèmes potentiels, notamment dans des campagnes électorales où il y a des gens de troisième couteau qui montent dans le dispositif et qui ils n'ont pas à se retrouver à ce niveau de responsabilité et grosso modo avec un niveau d'impunité et un niveau de non-contrôle comme celui-ci.
Rappelle-toi le sac du temps de Pasqua.
Mais c'est pas correct. Voilà, bon. Bien évidemment, mais c'était tout aussi scandaleux.
Laetitia, tu as un avis sur la question ?
Oui, alors moi je suis presque surprise qu'on puisse être surpris parce que je suis d'accord avec Jean-Michel, ça a toujours existé, avec vous tous ça a toujours existé. Après, je pense qu'aujourd'hui la loupe des médias, des réseaux sociaux est fait qu'on en parle beaucoup et qu'on le reprend en boucle, etc. Mais c'est vrai que ça a toujours existé. Après, est-ce que certains sont déçus en se disant, on pensait que tout allait radicalement changer ? Moi, je n'ai pas eu cette naïveté-là. Je pense que l'appareil d'État sera toujours un peu l'appareil d'État. Il y aura... Ce genre de scandale a toujours existé. Il y en aura toujours. Enfin, en tout cas, ça fait partie un peu quelque part du système. On peut le déplorer. Mais sans... être surpris, c'est... Voilà, ça me...
La parole est à la défense.
Oui, moi, je ne suis pas dans la défense. Mais simplement, je voudrais dire que cette affaire n'est pas terminée. Non, elle n'est pas terminée.
Fais pas ton étui Pélénel, s'il te plaît.
Elle n'est pas terminée. La bonne preuve, c'est que le chef de cabinet de M. le Président de la République est convoqué.
Il va être écouté devant le Sénat.
Il va être auditionné. Donc, moi, ma position...
On fait des caisses sur un sujet qui est quand même...
Je t'ai écouté.
Tu avais bien pas le mettre sur la table.
Je t'ai pas coupé.
J'ai rien dit.
Donc, toi, t'arrêtes pas de me couper. Si, tu as fait une présentation à la Thierry Maslis.
C'était une époque.
Oui, c'est-à-dire que tu as présenté les choses d'une façon très caricaturale.
À chaque émission, il faut qu'il engueule quelqu'un. Aujourd'hui, c'est toi.
Mais moi, je t'ai pas coupé. J'aimerais que tu me coupes pas.
Monsieur Kamache. Laissez-le parler.
L'affaire est pas terminée. Attendons de voir ce que va faire la justice. Moi, je suis respectueux des décisions de justice. On verra bien ce que décideront les magistrats sur cette affaire. N'allons pas trop vite en besogne. Il y a apparemment plus de choses que ce qu'on sait qui se sont passées. Donc, laissons faire la justice.
On dirait que ça fait plaisir quand
ça se passe mal. Ça ne fait pas plaisir du tout.
Quand ça se passe mal.
Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est ce que je voulais dire et tu fais bien de me faire remarquer. Parce que pour moi, le plus important, ce n'est pas ça. Pour moi, le plus important, et malheureusement, je suis obligé encore de le dire aujourd'hui, avant de venir, j'ai regardé les chiffres. Des injustices dans ce pays, des inégalités. Elles continuent à se creuser. Je suis au regret de vous le dire. Il y a plus de gens. Je ne sors pas du sujet. Si. Mais ce qui m'intéresse dans le... Moi, j'ai voté Macron au deuxième tour.
Je le redis.
Mais ce que je souhaite, c'est que ce gouvernement, il réussisse. Moi, je ne suis pas un opposant systématique. Mais j'aimerais qu'on s'occupe des vrais problèmes des gens plutôt que... Mais laissons faire la justice.
Et bien, plutôt que de s'occuper de Benalla, occupons-nous des affaires importantes.
Laisse faire la justice. Franchement, on verra ce que la justice décidera.
C'est quand même toi qui as amené le sujet. Hein.
Oui. Mais bien sûr.
C'est pas moi,
mais parce que ça a quand même été le fil rouge qui nous a suivi pendant toutes les vacances. Je te donne, Jean-Michel, je vais te donner la parole.
Bref.
Mais, alors très bref, parce que, attention, j'étais à l'œil.
Le président Macron et son équipe en ont tiré toutes les conséquences. Il a demandé une réorganisation des services de l'Élysée, il a demandé une série de contrôles, donc... c'est pas bien, c'est équilibré ce que je dis, ce que j'ai dit, c'était pas polémique. Dire et commenter une actualité, ça veut pas dire qu'on est forcément partisan, surtout pas moi. Je suis même plus au Républicain, c'est pour vous dire, comme je suis pas partisan, je suis sans étiquette aujourd'hui. Parce que je suis, je suis dégoûté par tout cela. Par des dérives permanentes et on ne croit plus à l'engagement. Oui. C'est ça qui est.
Eh ben, tu es presque macroniste, sans étiquette.
Excusez-moi, mais c'est pas tout à fait.
Non, mais c'est pas une attaque. Hein.
Moi, je crois que ça a toujours existé, ce genre de situation. Moi, tout simplement, je crois que ce qui s'est passé, c'est que Macron, il a voulu constituer autour de lui une équipe avec des gens dont il avait confiance. Et il a fait passer, là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il a fait passer ce genre de personnage au feu, c'est-à-dire qu'il était sous-officier, il l'a fait passer officier. Ça, c'est pas normal, ce genre de choses. Mais après, je pense qu'il s'est fait couillonner par le personnage, parce que le gars, il a débordé. Macron, il ne peut pas encadrer tous les gens qui sont autour de lui.
Mais ça, on
donc,
est
tous d'accord là-dessus. C'est pas une dérive d'État, c'est la dérive d'une personne. Et je suis d'accord avec Thierry, c'est qu'on ne doit pas en faire une affaire d'État.
Moi, j'ai pas compris, c'est ce que je te disais tout à l'heure.
On doit le sanctionner.
Le problème, c'est que quand il a fait sa campagne électorale, notamment au deuxième tour, il a dit qu'il avait plus blanc que blanc.
Mais tu repédales encore
Jean-Claude, tu peux pas. Si demain, tu es dans des responsabilités où tu dois embaucher, par exemple, un chauffeur, tu peux pas, tu vas prendre un gars qui te semble être de confiance et puis, manque de peau, ce gars, il va te trahir parce qu'il n'aura pas une éthique qui correspond à ce que tu as envie.
Et on va dire, c'est ta faute parce que tu l'as engagé.
Moi, je pense qu'il fallait tout simplement le virer avec perte et fracas et puis passer à autre chose. Qu'on fasse un tabac là-dessus, moi, je ne suis pas d'accord.
Il y a un autre aspect.
Mais pendant ce temps-là, excuse-moi, pendant ce temps-là aussi, je me demande s'il n'y a pas une volonté, c'est que pendant ce temps-là, tu ne parles pas du reste.
Voilà. Parce qu'on ne parle pas de la réforme institutionnelle qui a été arrêtée.
Oui, bien sûr. Mais il y a un autre aspect, c'est que quand on regarde la manière dont les choses se sont passées, moi, j'ai pris le temps d'écouter une partie des auditions parlementaires. Je suis désolé, il y a eu des trous dans la raquette. C'est-à-dire qu'à un moment, le préfet de police ne sait pas des choses, le ministre de l'Intérieur ne sait pas des choses, et on voit bien. Parler du sac, je ne fais évidemment pas de parallèle entre le sac et l'affaire Benalla, mais très rapidement, dans le régime institutionnel de la Ve République, où tout tourne autour du président, des sortes de restes de la monarchie française, il y a des systèmes de courtisans, et il y a des personnes qui n'ont pas vocation à avoir le pouvoir qu'ils ont, mais on leur attribue un pouvoir symbolique parce qu'ils sont proches de l'Élysée, c'est ça qui ne va pas. Et ça démontre aussi, on en parlera peut-être pareil tout à l'heure aussi, le départ du président de l'Assemblée nationale au ministère de l'Environnement montre bien que l'Assemblée nationale ne compte rien et qu'il n'y a que ce qui se passe au château qui est important.
Et c'est sur ces bonnes paroles qu'on va marquer la première pause. On se retrouve dans un instant. Ne bougez pas, le Coq à l'âne revient.